selon Hubert Védrine.
Bonjour Hubert Védrine.
Bonjour Guillaume.
Beaucoup de négociations internationales s'enlisent aujourd'hui. Comment expliquer cette situation, hélas, générale ?
Oui, je crois que c'est intéressant ce matin de jeter un éclairage sur cette question qui donne une impression de paralysie dans plusieurs négociations importantes. Pensons par exemple au processus lancé par Angela Merkel et François Hollande concernant l'Ukraine, le processus dit de Minsk, un format dit Normandie, justement, qui met au premier plan la France et l'Allemagne. Ce processus marque le pas pour des raisons qui tiennent au gouvernement de Kiev, mais qui tiennent avant tout quand même aux séparatistes ukrainiens, un peu à Poutine. Bon, bref, ça n'avance pas comme ça avait été souhaité. Citons ensuite, par exemple, la tentative laborieuse de négociation sur la Syrie, dont on voit que elle est surtout conduite par la Russie, qui a les cartes en main, pour des raisons dont on a déjà parlé ici, mais qui n'avance pas pour des raisons évidentes de représentativité des groupes, de non-engagement de la Russie sur l'avenir de la Syrie et notamment d'Assad. Bon, ça n'avance pas. Il y a également l'idée périodique d'une relance d'une négociation au Proche-Orient concernant la question palestinienne, donc la relation Israël-Palestine. De toute façon, le gouvernement Netanyahou n'en veut à aucun prix. Récemment, il a dit que la France n'était pas qualifiée pour cela, mais je ne me rappelle pas, depuis que la droite israélienne est au pouvoir, qu'elle ait jamais admis que la France soit qualifiée pour jouer un rôle. Le seul pays qui les accepte, parce qu'ils sont capables de le neutraliser, ce sont les États-Unis. Donc, à la tentative française de conférence, John Kerry, le secrétaire d'État américain, a lui-même redit que c'était pas possible de rester au statu quo, qu'il fallait réessayer quelque chose, mais on voit bien que les obstacles d'emblée sont immenses. Il y a la question de la mise en œuvre de l'accord Iran sur la question nucléaire. Là, c'est important, c'est un accord signé, mais on voit bien que la bataille n'a pas cessé ni à Téhéran, ni à Washington sur l'application. Il y a la grande question de l'application de l'accord entre l'Union européenne, conduit par Madame Merkel, et la Turquie, sur la question des réfugiés. La Turquie reprenant les réfugiés qui étaient sortis, entre guillemets, illégalement, mais avec une filière d'émigration normale vers l'Europe. Il y a toutes les autres questions, libre circulation, visa, et comme la Turquie ne remplit pas ses autres engagements, une grande partie des Européens ne voudraient pas ratifier cet accord. Ils ont également à l'esprit que si les Britanniques voulaient sortir le 23 juin, c'est pas le plus probable, sortir de l'Union Européenne, il y aurait un début d'interminables négociations par la suite. Pensons aussi aux négociations internes entre Libyens sur la mise en œuvre du pouvoir de ce nouveau premier désigné que soutient, entre guillemets, la communauté internationale, etc. Bon, ça n'avance pas. La question de la grande négociation commerciale États-Unis-Europe, le grand accord commercial qui est de plus en plus contesté en Europe. Bon, on a l'impression que chacun attend un autre partenaire, un autre pays, une autre puissance qui en atteint un autre qui ne vient pas dans ces conditions. Impossible de faire des compromis, et sans compromis, pas de solution. Et alors, pourquoi cette situation ? Pensez aux États-Unis, un président qui est toujours remarquable, me semble-t-il, mais en fin de mandat. Incertitude, on voit bien les positions des antagonistes, des candidats à la primaire, une partie du monde commence à attendre l'élection, non seulement novembre, mais l'installation du président en janvier. Ses choix par la suite, donc plusieurs mois. Prenez Poutine. Poutine et la Russie ont empêché militairement le régime d'Assad, le régime de Damas, de tomber, et on a l'impression maintenant que politiquement, il ne sait plus très bien quelles sont ses priorités, quelle est sa tactique. Madame Merkel, elle reste très forte, mais elle n'est plus intouchable. Sa position dans l'affaire des réfugiés est quand même très contestée, dans une partie de l'Europe bien sûr, mais également en Allemagne, même si moralement, elle a raison. Le président français, bon, il a entamé sa dernière année de présidence, c'est pas le moment le plus commode pour prendre une initiative avec un véritable impact. J'ai cité la guerre interne à Téhéran entre les partisans de Rouhani et les autres sur l'accord. Pensez également à l'Arabie, prise à revers par Daesh, c'est une sorte de Frankenstein qui est apparu au prix du pétrole, même si c'était un petit peu remonté récemment, mais qui en tout cas prive l'Arabie de ressources immenses, obligé de prendre des décisions très compliquées et très graves dans la politique économique et sociale de l'Arabie. L'Égypte, je ne parle pas malheureuse affaire d'avion, mais c'est de plus en plus tendu en Égypte contre le président Sissi, même si l'ensemble de la classe politique avait été soulagée et qu'il débarrasse l'Égypte des frères musulmans. Bon, voyez le tableau.
Donc, Oui, un tableau effectivement assez noir. Qu'est-ce qui pourrait débloquer dans ces conditions la situation? Alors en tout cas, au cas le cas, puisqu'on voit bien que ça n'obéit pas à une cause unique tout cela.
Non, il n'y a pas une cause unique, c'est presque encore plus compliqué, c'est une conjonction. Une conjonction de situations et de causes variées et multiples, en dehors du fait, comme je dis sans arrêt, qu'il n'y a pas encore de communauté internationale digne de pouvoir global, donc il faut des conjonctions positives. Alors n'oublions pas dans le tableau quand même qu'il y a des pays qui ne sont pas dans cette situation, qui ne sont pas paralysés. La Chine n'allait pas sur le plan international. Cameron, s'il gagne, il sera plus fort après qu'avant, hein, s'il gagne le référendum. Erdogan, c'est une partie du problème, enfin il est de plus en plus fort, pour pas dire mégalomane par ailleurs, donc jusqu'à un certain point il est fort. En Italie, on pourrait dire que Renzi, bon, n'est pas dans une position de faiblesse par exemple. Netanyahou, je l'ai cité, il est en position assez forte. Bon, mais c'est pas parce que ces quelques leaders sont de position relativement forte que ça fait une solution. Pour une solution et pour répondre à votre question, il faut une conjonction en fait. Il faut une conjonction, donc il faut qu'il y ait quelque part un pouvoir qui soit plus puissant que les autres et qui arrivent à débloquer les choses, par exemple les États-Unis sur la paix au Proche-Orient, s'ils y arrivaient, mais on voit bien qu'on n'est pas dans la conjonction, donc on est obligé de conclure et de s'attendre à des situations, pas de paralysie complète, mais de négociations laborieuses, vous voyez, un travail interminable de bénédictin.